Nous lirons les versets 18 à 27 dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12. Et vous savez, vous qui venez, que nous avons étudié l'Évangile de Marc d'une manière séquentielle, du début jusqu'à ce point. Et donc nous arrivons aujourd'hui dans cette dernière semaine du ministère terrestre de Jésus. Et nous nous rappelons que Jésus, en venant sur cette âne, au milieu des acclamations qui citent le psaume messianique et qui disent à Jésus, bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur, que le Christ, acceptant tout cela, cesse de se cacher un peu et maintenant révèle ouvertement son identité messianique. Ainsi commence une semaine d'attaque incroyable. Jésus renverse les tables du temple, il porte un jugement sur le judaïsme du premier siècle, il maudit le figuier, symbole d'Israël, qui n'a pas cru à son Messie, et maintenant il enseigne une dernière fois pendant une semaine, jour après jour, venant de Béthanie, chaque matin vers le temple, pour une dernière fois annoncer sans ambages le salut et son identité de Messie, de Sauveur, appelant les peuples. Nous avons dit la semaine passée que le Sanhédrin, qui se compose de trois groupes de personnes, les pharisiens, les sadducéens et les scribes, lui envoie petit groupe après petit groupe pour essayer de le piéger, de le faire perdre par une parole. Ils veulent faire tuer rien de moins le Fils de Dieu. Et ils veulent trouver un prétexte pour le faire. Et chaque groupe est renvoyé. Le Seigneur répond dans une sagesse divine et envoie Dieu face à l'homme qui essaie d'embarrasser Dieu. Mais le Fils de Dieu montre la grandeur de sa sagesse dans ses réponses, et la situation est retournée chaque fois, et ce sont les accuseurs qui deviennent accusés. C'est très important pour nous parce que le Christ vit avec nous un peu comme ça aussi, même si nous ne sommes pas à l'attaque vis-à-vis de lui. Il retourne la situation. Il n'est jamais en position de mise en cause, notre Sauveur. Jamais. Jamais. C'est l'homme, qui qu'il soit, qui vienne dans la présence de Christ, qui se retrouve mis en cause constamment. Et heureusement pour nous, cette mise en cause est un effet de son amour qui cherche à nous changer et à nous rendre plus comme celui. Bien, nous allons lire le passage et commencer. Donc, je lis au verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, tenez bien. On parle de la résurrection corporelle. D'accord? Vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Citation de Deutéronome 25, vous le saviez sans doute. Or, il y avait sept frères, et maintenant ils vont raconter une curieuse cas de figure qui est invraisemblable. Mais parfois, quand on veut piéger quelqu'un, on utilise ce que les gens appellent le reductio ad absurdum, qui veut dire tout simplement ceci: je vais trouver une situation qui va montrer que ce que tu crois, c'est ridicule. Parce que si cette situation existe, ta croyance ne marche plus. D'accord? Je vais trouver un truc dans la vie où si ce que tu crois est vrai, on est dans le ridicule. Et donc, écoutez cette situation. 20, verset 20. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Donc il faut que cette loi de Moïse entre en jeu, il faut que le frère épouse la femme. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut même du troisième et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, et en fait en grec, la phrase qui est utilisée est ironique. Pour presque dire, oui, à cette résurrection prétendue que vous croyez, donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, résurrection corporelle toujours, résurrection ne signifie jamais juste quelqu'un désincarné auprès de Dieu. C'est toujours la résurrection corporelle. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas, dit Jésus, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Et nous voyons qu'ils repartent tout petits, n'est-ce pas? Et nous apprenons quelque chose d'immensément important pour nous tous. Nous commençons. Si vous avez la feuille, vous voyez que nous voulons nous poser la question d'abord, qui sont ces Sadducéens? Alors, les Sadducéens étaient un groupe, un parti religieux au milieu d'Israël qui était bien moins nombreux que les pharisiens. D'accord? Bien moins influents. Même si le grand sacrificateur de l'époque fait partie des Sadducéens. Et Jésus, dans quelques jours, va paraître devant le plus grand des Sadducéens. Mais, en tout cas, ils sont moins. Ils sont différents aussi, parce qu'ils n'acceptent pas toute la Bible juive, tout l'Ancien Testament. Ils n'acceptent que les cinq livres de Moïse, le Pentateuque. Et ensuite, ils sont des rationalistes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne croient pas dans la résurrection corporelle à laquelle les Juifs croyaient à l'époque. Et nous allons voir cela. Mais eux, ils étaient comme des gens aujourd'hui qui disent que pour trouver ce qui est possible, je consulte seulement ma raison. Est-ce que ça me semble possible? Non, ça me semble pas possible, une résurrection corporelle. Non, non, non. Donc, c'est pas possible. D'accord? C'est ça un rationaliste. Pour savoir si quelque chose est possible, tu ne consultes que ta petite raison. Et c'est ce que les Sadducéens faisaient. Nous savons pas beaucoup, beaucoup sur les Sadducéens. Il n'y a pas beaucoup dans les écrits, même en dehors de la Bible de l'époque, mais il y a Flavius Joseph, qui était un fameux historien juif du 1er siècle. Il est né à peu près l'année où Jésus est mort, et nous avons ses écrits. Vous pouvez les consulter en français. Gros pavé comme ça. Et Flavius Joseph était sadducéen, et il a quitté les sadducéens pour devenir pharisien. Et il a dit dans son livre « Les Antiquités » que, je cite, « les Sadducéens soutiennent que l'âme périt avec le corps. » Donc, une fois que l'âme meurt physiquement, il n'existera jamais plus. Plus jamais, pardon. Les pharisiens n'aimaient pas ça. Bien sûr, ils croyaient avec les autres juifs ce que l'Écriture disait là-dessus. Et l'Ancien Testament, partout, proclame qu'il va y avoir une résurrection corporelle des hommes croyants d'entre les morts et une vie, pas seulement une résurrection corporelle, mais que quand on ressuscite, ce corps sera différent. immortel. L'Ancien Testament l'annonce, bien sûr le Nouveau. Et les Juifs croyaient que l'homme était destiné, l'homme croyant au moins, non pas comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que il y a eu un dérapage dans l'histoire. Et pendant des siècles, les chrétiens, quand tu dis, quand tu parles de la vie du croyant en éternité, qu'est-ce que beaucoup de chrétiens pensent? Ils imaginent le paradis quelque part dans le ciel, et nous, désincarnés, comme des âmes sans corps, nous sommes un peu des esprits auprès de Dieu. Mais les Juifs n'avaient aucune idée pareille. Cette notion aurait été étrangère pour les Juifs. Ils croyaient que l'âme était corps et âme, et si Dieu sauve l'homme, il le sauve corps et âme, et qu'il va y avoir une résurrection corporelle. Et que le futur de l'homme se vit sur une nouvelle terre, nous attendant une nouvelle terre dans laquelle habitera la justice, dit Pierre. Nous attendons une nouvelle terre dans laquelle habitera la justice. D'ailleurs, si je ressuscite avec mon corps, il faut bien que je ne flotte pas dans l'air. Bon, donc, en tout cas, voilà la croyance des Juifs en général à l'époque qu'il allait y avoir une résurrection. Je vous donne quelques citations. Il y a un document des rabbins de l'époque de Jésus qui s'appelle maintenant M. Sanhédrin X et qui dit que quiconque dit que la résurrection ne peut pas être déduite du Torah n'aura aucune part dans l'âge à venir. Et pourquoi est-ce qu'il disait celui qui dit que la résurrection corporelle ne peut pas être déduite du Torah? Bon, on verra. La deuxième bénédiction de Shemonei Esrei dit « Béni sois-tu au Seigneur qui ressuscite la mort, les morts ». Et donc ça, c'est un document de l'époque aussi. Une doxologie qu'on devait prononcer à l'époque dans pendant les obsèques disait « Il te fera ressusciter, béni soit celui qui garde sa parole et qui ressuscite les morts ». Et si nous voulons consulter les Écritures elles-mêmes, nous trouvons que Job lui-même dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non d'un autre. » Et j'aurais pas dû citer ce passage parce qu'il y a un autre où il parle de son corps, où je suis pas allé assez loin. Excusez-moi. On voit ici au moins une vie d'après, mais on ne voit pas l'aspect corporel, n'est-ce pas? Mais il en parle, Job. Mais je vous donne Ésaïe 26. « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. » Ésaïe. « Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre, au trespassé, rendra le jour. » Ou bien Ésaïe 25, que nous avons lu tout à l'heure, au début du culte. Donc, il y a tellement de passages dans l'Ancien Testament comme ça, que je m'arrête là, mais beaucoup de passages parlent de cette résurrection d'entre les morts. Le Messie lui-même dit dans le psaume 16 que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption physique, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. Bien, donc voilà les Sadduciens qui étaient une partie un peu minoritaire. Ok, nous comprenons la situation, nous pouvons maintenant essayer de suivre notre Seigneur et de savoir pourquoi il parle comme ça et comment est-ce que cela peut aussi nous parler aujourd'hui. Nous sommes au point 2, la stratégie des Sadduciens. Les versets 20 à 23, je vous ai déjà dit qu'ils veulent créer une situation où la résurrection nous met dans un dilemme ridicule. Parce que regardez la situation. On est dans la nouvelle terre, les croyants sont ressuscités, nous sommes en train de vivre, et je retrouve ma femme. Ah, tu es là. Et je vois mes 6 frères qui disent, j'ai retrouvé ma femme. Ah, tu es là. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est complètement ridicule. Maintenant, on a sept frères qui ont la même femme. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir s'il y a une vraie résurrection corporelle d'entre les morts? Vous voyez donc pourquoi dans l'histoire, il fallait qu'aucun des hommes n'ait un enfant avec la femme, parce que les Juifs auraient dit, s'il y en avait eu un qui a eu un enfant, bon, il a le plus de droits, n'est-ce pas? Mais aucun n'ait un enfant avec la femme pour deux raisons. Pour que les autres soient obligés de l'épouser, parce qu'il veut qu'on se retrouve avec sept maris de la même femme à la fin. Et aussi, ils sont sur un pied d'égalité. À qui cette femme? Et remarquez bien qu'ils font reposer ça tout sur le Torah et tout sur le Pentateuque. Un verset de Moïse. C'est Moïse qui dit, qui donne cette loi qu'on doit épouser la femme de son frère défunt qui n'a pas eu d'enfant. Vous savez pourquoi il y avait cette loi? Ça nous semble étrange, n'est-ce pas? Vous êtes content que ça n'existe pas aujourd'hui? C'était pour empêcher des familles de périr de la nation d'Israël. C'était d'empêcher une ligne, une famille, de mourir complètement et de disparaître du peuple. D'accord? Ok. Donc, nous voulons comprendre la réponse de Jésus. Nous arrivons au point 3. Et nous sommes au verset 24 à 27 que je vais vous relire. Donc, Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous remarquez que la première chose que Jésus fait, ce n'est pas de répondre à la question ou d'entrer en matière. La première chose, est-ce que vous oserez faire ça, vous dire tout de suite avant de répondre, voilà la raison pour laquelle vous êtes dans l'erreur. Et ils n'ont rien affirmé. Ils n'ont que posé une question. N'est-ce pas? Et même en posant une simple question, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur même de poser une question comme ça. Vous montrez par la question que vous vivez dans l'erreur vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de l'homme, et vis-à-vis de l'avenir. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux dire quelqu'un qui n'a rien affirmé? Parce qu'il y a des présupposés derrière la question, n'est-ce pas? Et nous allons les voir. Ok? Et Jésus les voit parfaitement. Et ça m'arrive souvent, peut-être à vous aussi. Il y a des gens qui me posent des questions au sujet de la foi chrétienne. Et cette question est chargée de présupposés faux. Chargée. Et parfois, je tombe dans le piège d'essayer de répondre à la question, alors que je devais plutôt répondre aux présupposés. Voilà. Mais, en tout cas, Jésus commence par là. Et nous voyons qu'il est Seigneur. Et à la fin, quelle est la dernière chose qu'il dit? Vous avez vu? Au verset 27, il dit, votre erreur est grande. Donc, il commence et finit de la même manière. Voilà pourquoi vous êtes dans l'erreur. Et votre erreur est grande, c'est-à-dire vous allez vous faire périr par cette erreur. Et il y a des erreurs que vous avez faites, vous, dans votre pensée, qui allez vous faire périr. Si le Seigneur n'avait pas corrigé, peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un même dans ce cas. Bien, donc Jésus commence en les taxant d'erreur et d'ignorance. Donc de cette manière, la situation est changée tout de suite. Maintenant, on n'a pas un Jésus accusé et devant se défendre, mais on a des gens prononcés dans l'erreur d'une manière avec autorité. Et voilà pourquoi vous êtes ignorants. Écoutez bien, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Imaginez que vous êtes presque théologien professionnel, parce qu'il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé le Sanhédrin, sans doute, a envoyé les Sadduciens auprès de Jésus et les meilleurs, les connaisseurs. Et Jésus dit, vous êtes des gens qui ne connaissent pas les Écritures, vous ne savez pas ce que Dieu a dit, et deuxièmement, vous ne savez pas ce que Dieu est. Vous ne comprenez pas sa puissance. Et il y a beaucoup d'erreurs qui viennent de là, n'est-ce pas? Pensez au culte, aux sectes et leur croyance mauvaise. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni qui est Dieu. Donc nous sommes dans quelque chose de tellement actuel, ce principe des Sadduciens se répète constamment, constamment, constamment dans l'histoire. Et je vais vous en parler à la fin. D'accord? Mais pour le moment, nous continuons. Deuxièmement, après avoir taxé ces gens d'erreurs et d'ignorance, Jésus corrige les erreurs de leurs présupposés. Nous regardons donc au verset 25 d'abord, où Jésus dit, « En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, vous pensez que une résurrection corporelle, c'est simplement faire revenir les gens dans une vie exactement la même que la vie précédente. D'accord? Où il y a le mariage, tout se passe de la même manière. Et Jésus leur dit, vous vous trompez, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Il leur dit, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes. Les femmes ne prendront pas de mari parce que nous allons ressusciter à un mode de vie complètement différent qui n'est pas comme la vie d'avant. Une vie glorieuse avec des conditions complètement différentes. Vous n'auriez pas posé la question si vous aviez su. La puissance de Dieu va un jour vous exalter dans une situation et dans un mode d'existence où le mariage humain serait une chose trop faible, trop qui ne correspond pas à la gloire à venir. Je ne sais pas s'il a raison, mais le fameux professeur C.S. Lewis, donc, qui a écrit les chroniques de Narnia, intellectuel, converti à Christ dans son âge mûr, a dit que dans l'éternité, nous n'avons pas besoin de nous marier ou de retrouver notre mariage d'avant, parce que l'amour que nous avons, le niveau, la sorte d'amour que nous allons expérimenter avec tout le monde, sera plus grand que ce que nous avions dans le mariage. Je ne parle pas, le côté sexuel est laissé de côté, mais même la joie véritable de l'union sexuelle, on aura quelque chose de spirituellement plus grand que cela dans l'âge à venir. Dieu va nous donner, en d'autres termes, le mariage et même le plaisir de l'union physique dans le mariage n'est qu'une petite préfiguration de quelque chose de plus grand que la puissance salvatrice et bénissante de Dieu va vous donner un jour. Alors là, c'est un peu ce que Jésus est en train de leur dire. Parce que vous voyez qu'à la fin, il dit, ils seront comme des anges dans les cieux. Attention, ne comprenez pas mal, il n'a pas dit, les gens qui ressuscitent, ils seront dans les cieux comme les anges. Il a dit, ils seront comme les anges qui sont dans les cieux. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous serez sans corps. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que nous serons immortels. Et avec une existence beaucoup plus élevée. Je veux vous prouver ça en vous citant le passage parallèle en Luc chapitre 20. Il va nous aider un tout petit peu. Mais c'est Jésus qui parle et Luc est en train de nous donner des détails qui ne paraissent pas en l'évangile de Marc. Et il dit ceci, « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari, ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Vous voyez, tout ce que Jésus veut dire nous amène à voir que le mode de vie est complètement différent. Et votre scénario qui présuppose qu'on est dans une même condition de vie montre que vous n'avez pas lu les Écritures et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Ok. Cette loi qui visait à empêcher les familles de périr en Israël n'a même plus de sens parce que justement, on ne périt plus. On est immortel. Et poser cette question ou être dans le même registre montre que vous n'avez rien compris. Ok, nous allons plus loin et je suis dans le point C, le sous-point C, sous le point 3 si vous suivez la fiche. Jésus emploie la partie des Écritures que les Sadducéens croient pour les convaincre de leur erreur et leur montrer sa gravité. Le Seigneur fait quelque chose d'extrêmement, compatissant d'une part et intelligent d'une autre part. Et si jamais vous êtes avec quelqu'un qui a des préjugés, peut-être ça peut vous donner des idées sur comment vous prendre. Mais donc, comme les Sadducéens ne croyaient qu'aux cinq livres de Moïse, Jésus va maintenant citer Exode. Il aurait pu prouver la résurrection d'entre les morts par beaucoup d'autres passages, mais ça n'aurait fait que les provoquer, parce qu'ils ne croyaient pas dans cela. Puisqu'ils croyaient dans les livres de Moïse, et puisqu'on peut y trouver facilement l'enseignement sur la résurrection corporelle, allons-y, on va prouver de là. Donc, nous lisons dans le verset 26 et 27 ceci. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, que vous croyez bien, il précise, ce que Dieu lui a dit près du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et on dit, comment est-ce que ça prouve la résurrection d'entre les morts? Mais Jésus conclut, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Nous devons passer un petit moment là-dessus parce qu'il y a quelque chose de profond dans cette phrase et parfois on est trop superficiel dans la manière d'essayer de le comprendre. Souvent, on entend des sermons sur ce passage et on vous dit... Jésus dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme il dit Dieu est au présent, n'est-ce pas? C'est le verbe dans le présent. Ça veut dire qu'ils doivent être vivants au moment où il parle à Moïse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de verbe dans le texte hébreu ni dans le texte grec de Luc. Bon, donc... Ce n'est pas faux, cette idée, mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus tire de là. Ce n'est pas ce qu'il voit dans cette phrase-là. C'est vrai qu'il dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voilà ce que Jésus veut dire. Quand l'Ancien Testament dit que Dieu est le Dieu de quelqu'un, il est en train de parler de l'Alliance. D'accord? Il est le Dieu d'Abraham. Il n'est pas le Dieu de tout le monde, comme il est d'Abraham quand on dit que ça. Il est le Dieu qui est entré en Alliance et qui s'est donné à Abraham pour son Dieu et qui a pris Abraham pour son enfant. D'accord? Et il a fait dans l'alliance, Dieu, une alliance, c'est un ensemble de promesses de grâce que Dieu fait à quelqu'un. Vous savez, quand deux pays font une alliance, c'est quoi? Ils font des promesses. Ils disent, si quelqu'un vient te battre, alors je viens à ton secours. Et condition que, quand ça m'arrive aussi, tu promets de me faire de même, n'est-ce pas? Une alliance, c'est quelque chose qui lie deux parties dans une certaine relation particulière par des promesses où on va faire certaines choses pour l'autre. D'accord? Et la Bible dit que le salut, c'est le Dieu qui entre en alliance, en lien, en relation avec nous. Mais tenez bien, l'alliance et de salut est éternel. Éternel. Dieu se lie quand c'est une vraie alliance. Il y a différentes sortes d'alliances dans la Bible. Et quand c'est une vraie alliance de salut, c'est incassable. D'accord? Et donc Dieu, c'est pour ça que Dieu a promis des choses à Abraham. Une descendance, tes descendants seront comme des nations, comme les étoiles que tu vois. Des gens de toute nation vont être bénis à travers ton descendant et ainsi de suite. Il lui a promis à Abraham le monde à venir et à nous, selon Romains 4, qui dit que ce n'est pas par la loi, mais par la promesse que Dieu a promis à Abraham le monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que quand Dieu a promis à Abraham Canaan, Abraham a compris, Hébreux 11 nous le dit, que Canaan était seulement une préfiguration. D'accord? Un endroit idyllique pour qui appartient à Dieu, où je vais vivre toujours avec lui. Et donc, Abraham attendait la cité céleste qui vient de Dieu, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Donc Abraham avait compris, et je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas vous perdre, mais l'important, c'est que quand Jésus dit, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de dire que le Dieu qui fait alliance, dans cette alliance, il fait des promesses qui exigent une résurrection corporelle. Et il faut qu'il ressuscite. Parce qu'Abraham n'a pas reçu ce que Dieu lui a promis. Et la seule manière de recevoir cela, parce que les promesses sont telles, c'est qu'il ressuscite corporellement. C'est ça l'idée. Parce que l'essence du promesse, le cœur du promesse de Dieu, c'est quoi? C'est que tout ce que le péché a fait, Dieu va défaire. Et qu'est-ce que le péché a fait de primordial? Ça nous a tués. C'est la mort. Si mon corps ne ressuscite pas, Dieu n'a pas pu défaire ce que le péché a fait. Quand Dieu est entré en alliance avec toi et il te dit, je serai ton Dieu pour toujours et tu seras mon... Et pour cela, il faut que tout ce que le péché a fait soit détruit et renversé. Il te dit ça. Mais ça exige que la mort physique soit inversée, parce que c'est l'effet du péché. Donc Jésus tire de ce fait qu'il est le Dieu d'alliance qui a fait des promesses à Abraham, que forcément, Abraham, comme vous allez avoir la bénédiction de voir votre corps touché par le péché, arriver au stade où il n'est plus sous l'emprise du péché de la mort. C'est pour cela qu'il y a cet accent en Luc de l'immortalité. L'immortalité, il n'y a plus de mort. Et c'est pourquoi j'ai lu en Ésaïe 25, au début du culte, où on parle, il n'y a plus de mort, plus de deuil. La gloire de Dieu, c'est qu'il est peut puissamment détruire, anéantir la mort corporelle elle-même, aussi bien que la mort spirituelle. Maintenant, nous allons tirer des conclusions. Ok, si vous me donnez 7 ou 8 minutes, peut-être pas autant. Cela, tout cela n'est pas loin de nous. Bien sûr, ça nous concerne intimement. Je vous demande, est-ce qu'il y a des Sadducéens aujourd'hui? Vous êtes un témoin de Christ. Et vous êtes un chrétien et vous côtoyez les gens dans les églises et les gens en dehors. Et dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui croit que non, Dieu, c'est pas possible que Dieu ait créé le monde en 6 jours? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Moi, j'ai envie de dire à de telles personnes, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que tout simplement, derrière cette croyance théiste, évolutionniste, il y a tout simplement la pensée que non, c'est trop, 6 jours, toutes les espèces et tout plaqué comme ça. Non, c'est pas possible. Il y a tout simplement une incrédulité dans la capacité d'un Dieu transcendamment puissant, que nous ne pouvons pas imaginer. Ce qu'il est capable de faire. Et qu'il fasse le monde en 6 jours, c'est tellement facile pour lui. Est-ce que vous connaissez des gens qui disent « Ah, avec tant de mal et de souffrance dans le monde, il est impossible que Dieu existe ?» Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si vous connaissiez les Écritures, vous sauriez bien que le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, n'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas exister s'il y a beaucoup de souffrance. Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a fait ça? C'est pas possible, il ne peut pas exister. Mais le Dieu qui est vraiment là, c'est un Dieu qui envoie la calamité et le bonheur. Il est transcendant. Sa manière de faire avec des hommes injustes et rebelles dans ce monde et les catastrophes qu'il permet afin de juger l'homme arrogant, qu'il veut pouvoir pécher contre Dieu et quand même vivre une vie paradisiaque. Dieu est un Dieu puissant et ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce que vous avez rencontré des témoins de Jéhovah ou des mormons ou des musulmans qui disent « Dieu devenir homme ?» C'est impossible. C'est inconcevable. Ce n'est pas recevable. Qui as-tu consulté pour savoir que ce n'est pas possible? Que ta tête. Est-ce que vous ne connaissez surtout pas les Écritures et vous ne savez rien sur la puissance de Dieu? Au moment de la mort, de la naissance de Jésus, Dieu explique à Marie, qui ne sait pas comment ça peut se passer non plus, elle dit « La puissance de Dieu viendra sur toi. » La puissance de Dieu. Ah oui, Dieu, incroyablement, peut devenir homme tout en restant Dieu et vivre ici-bas. Et il l'a fait. Ensuite, est-ce que vous connaissez des gens dans certaines églises qu'on appelle parfois libérales qui disent les miracles, vous ne croyez pas que c'est historique, n'est-ce pas? Ce que nous devons retenir dans l'évangile, c'est l'enseignement éthique. Aime ton prochain comme toi-même. Mais les miracles, non, ça ne s'est jamais passé. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et surtout et dernièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou est-ce que vous rencontrez des gens qui pensent que Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité, lui, corporellement, entre les morts? Et qui pensent cela tout simplement parce qu'en se consultant, je dis non. On n'a jamais vu ça. Vous avez vu un truc comme ça? Ce n'est pas pensable. C'est justement pour cela que nous avons besoin des Écritures. Parce que Dieu nous parle et nous indique et nous montre si nous sommes humbles, si nous ne sommes pas arrogants. Pour nous, dicter ce qui est possible, ce qui est vrai. Mais Dieu nous appelle à comme, vraiment, franchement, les amis, c'est une partie de cette histoire, c'est de s'humilier et dire, Dieu est là, et c'est lui qui peut me dire ce qu'il peut faire. Et je me plie à ça, et ça, j'aime pas entendre parfois l'exploit de Dieu, parce que c'est tellement grand que ça me donne peur. Et on appelle cette peur la crainte de Dieu, et elle est salutaire. Mais c'est ça notre problème à nous tous, même pour nous chrétiens, si nous n'avons pas les problèmes que je viens de citer. Parfois, il y a des choses, n'est-ce pas? Et on lit les Écritures et on a du mal, nous, à croire. Certaines choses dans la Bible, parce que nous n'avons aucune idée de la puissance de Dieu. Mais comme nous avons lu tout à l'heure que la foi qui sauve est une foi qui croit en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si vous ne croyez pas que Dieu a une telle puissance, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Dieu a cette puissance. Et être sauvé, c'est revenir à la vérité, à la réalité, à ce qui est. Est-ce que vous ne serez pas prêt à vous plier aujourd'hui, à dire, enfin, maintenant, je cède. Dieu a dit dans les Écritures qu'il a ressuscité son Fils, afin que moi, je puisse être sauvé comme lui de la mort. Et je crois dans sa puissance. Je crois qu'il a fait. Je crois qu'il est ce Dieu puissant. Et je me livre à lui. Que nous ne soyons pas comme les Sadducéens. Vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire, les Sadducéens? Ils ont disparu après l'année 70. Jésus va dans le lendemain ou le surlendemain parler du temple et de Jérusalem et nous dire que tout va être détruit. Et les Sadducéens vont savoir et vont pas le croire certainement. Et 40 ans après, massacre incroyable. L'impensable arrive. Jérusalem est rasée par les armées romaines. Et il est impossible, après ce jour, d'être sadducéen. Parce que ce qui était impossible pour le rationaliste est arrivé devant leurs yeux. Ne soyons pas comme eux. Nous allons célébrer la scène et pour cela, nous allons nous tourner vers le Seigneur et sa mort pour nous en chantant le 126, je crois, c'est ça? Qui s'appelle? Pour quel péché? Le 126.